Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules du sport.
François Pinet.
Fred Baïsta, Rapitkowski, Simon Dutin, depuis 9h ce matin, en direct jusqu'à midi, les grandes gueules du sport. Si vous vous réveillez seulement maintenant, vous avez de la chance d'abord, et vous pouvez retrouver le podcast des GG dès maintenant sur l'appli RMC. Dans 30 minutes, on ouvre le dossier autour de la natation française. Il y a eu les premières courses ce matin à Singapour lors des mondiaux. On fera le bilan évidemment de ces premières séries, on vous donnera les résultats et on se posera cette question: est-ce que l'âge d'or de la natation française est derrière nous? On retrouvera Julien Richard et Sophie Camoun en direct de Singapour à 11h45. Le débat caché, les GG qui ne savent rien ou presque, et pourtant elles vont devoir débattre. Et puis n'oubliez pas, pour tous les fans de foot, ce rendez-vous et c'est ce cadeau qu'on vous offre dans les grandes gueules du sport ce week-end. On vous offre vos places pour assister au match de préparation AS Monaco Inter Milan. C'est le 8 août à Louis II à 20h, c'est un vendredi. Et au programme, vous allez pouvoir être en bord terrain pour vivre au plus près l'échauffement des deux équipes et assister au match dans des bonnes conditions, avec notamment une coupe de champagne à la main. Pour remporter ses places, 32-16 dès maintenant, et on vous offre ce cadeau. Mais d'abord, les coureurs du Tour de France doivent avoir aujourd'hui un sacré cœur pour la dernière étape.
RMC, les grandes gueules du sport passent la seconde.
Prenez un compas, piquez en la pointe sur une carte de Paris entre le Sacré-Cœur et le Moulin de la Galette, et décrivez un cercle qui ira de la place Ravignan à la rue Lamarck, du square Saint-Pierre à la rue Colincourt. Vous aurez les frontières d'un tout petit pays, Montmartre.
Les cyclistes qui sont bientôt à Montmartre.
Absolument, les images du Moulin Rouge.
Là-haut, c'est la pleine campagne. Jardin, murs décrépits, silence, vol d'oiseaux.
C'est pas souvent que les athlètes et que les cyclistes empruntent cette voie. Quand il y a l'arrivée sur les Champs-Élysées, ils ne viennent pas à Montmartre.
Nous possédons en plein Paris un hameau à peu près inconnu, malgré son nom illustre, et qui est la butte Montmartre.
Qu'est-ce qu'on peut dire de cette difficulté, de cette première, de ce premier des trois passages de la côte de Montmartre?
Il va avoir une influence déterminante sur la suite de la course.
Là, on vient mettre une étape avec du piment, avec une bosse assez difficile en pavé, étroite, technique. Pas sûr qu'on ait besoin de ça pour clôturer un grand tour.
J'ai un dîner chez mes beaux-parents et un stock de chaussettes dépareillées dont il faut que je m'occupe depuis longtemps. Donc je vais faire l'impasse, je pense.
Et attention avec l'attaque de Mathieu Van Der Poel avec
Wout Van Aert.
Wout Van Aert, Wout Van Aert qui est en train de suivre Mathieu Van Der Poel, ça sort du peloton.
Nul autre hameau n'est situé de la sorte. Montmartre est un hameau vert assiégé par 40 centaines de mille êtres humains.
Les rues sont pleines à craquer.
Voilà,
c'est fabuleux.
Ah, bah, c'est une folie.
Et Montmartre, c'est aussi beaucoup de chansons.
La bohème.
Ah, ça plaît à Fred, ça.
Mon chanteur préféré.
Ça voulait dire...
Magnifique. Et on accueille, tiens, c'est aussi le chanteur préféré sans doute de Christophe Cessieux qui est avec nous. Salut Christophe.
Bonjour messieurs dames.
Christophe, il a vu débuter, hein. Il était tout petit, Charles Aznavour, ouais. Quand Christophe avait 20 ans.
Je l'ai bercé sur mes genoux, Charles.
Comment ça va Christophe? Dernière étape là. Oh là, c'est un peu triste, toujours la dernière étape. Hein.
Demain. Demain on aura tous un peu le cafard. Enfin moi j'aurai pas trop le cafard puisque je serai dans l'avion pour le Brésil, mais autrement les autres auront le cafard.
Bah, t'as raison, c'est comme ça qu'on peut tourner la page en partant au Brésil, t'as raison. Christophe, merci d'être avec nous. Évidemment, on va débattre autour de cette dernière étape. Les coureurs qui vont partir à 16h25 de Mantes-la-Ville pour une arrivée prévue sur le Champs-Élysées vers 19h30. Ils passeront trois fois par cette butte Montmartre, ce qui rappellera des souvenirs à ceux qui l'année dernière avaient vibré lors des Jeux Olympiques. Mais la question que je vous pose, c'est: faut-il que ce passage par Montmartre soit systématique? Oui ou non? Simon Dutin.
Systématique, non, mais récurrent, régulier, oui.
Donc je garde le nom. Sarah Pitkowski.
Oui, le nom aussi, plutôt non.
Non, plutôt non.
Ouais.
Fred Weiss.
Ben non.
Ouais, vous êtes tous sur nom, d'accord. Christophe Cessieux.
Ben non.
Bon, juste avant d'en débattre,
y a
ou
pas
presque,
de débat.
On va accueillir Nicolas Pelletier qui est également sur les routes du Tour pour RMC cette année. Salut Nico.
Salut les amis, salut à tous.
Salut. Et toi Nico, t'es plutôt oui ou plutôt non?
Plutôt non.
Merci.
Bon, bah, c'était sympa.
On va pouvoir en parler parce que Nico, le passage à Montmartre, en tout cas, il suscite un engouement incontestable.
Alors, on ne peut pas parler d'un engouement très fort dans le peloton, plutôt dans le public à l'approche de cette nouveauté pour la dernière étape du Tour. Après trois semaines de course, les coureurs sont lessivés. Cyril Dessel, le directeur sportif de Decathlon AG2R, résume un peu l'état d'esprit général.
Moi, très sincèrement, je trouve que la dernière étape d'un grand tour, c'est un petit peu celle qui vient clôturer trois semaines de bataille intense. On vient mettre une étape avec du piment, avec une bosse assez difficile en pavé, étroite, technique. Je suis pas sûr qu'on ait besoin de ça pour clôturer un grand tour.
Chez UAE et chez Visma, hier soir, ils étaient sur la même longueur d'onde. Il y aura de la tension jusqu'à la fin. Alors, il y en a quand même quelques-uns qui vont profiter de cette étape. C'est notamment le cas de Valentin Madouas, médaillé d'argent dans les rues de Paris l'année dernière. Le coureur de la Groupama FDJ savoure ce nouveau passage au cœur de la capitale.
Pas très dur, c'est juste qu'on l'avait faite après 200 km de course et qu'il y avait la fatigue, il n'y avait que 50 coureurs sur le peloton. Donc, c'est une ascension qui est, je trouve, de plus en plus dure. Au fur et à mesure, au début c'est un peu plus roulant, les pavés en meilleur état, et plus tu montes, plus c'est étroit et plus c'est raide, et plus les pavés sont en mauvais état. Donc voilà, sur trois passages, 70, enfin 80 km de course, c'est vrai que ça va pas être non plus une. On faut pas s'attendre à un combat incroyable, mais il peut y avoir des différences qui peuvent être faites.
Mais même si le peloton emprunte une partie du parcours utilisé par Paris 2024, tout est différent. Le nombre de coureurs est beaucoup plus important pendant le Tour de France. Ils seront plus de 150 à se battre pour parfaitement se placer en bas de la rue Le Pic. Le mauvais temps pourrait aussi être de la partie. Thierry Gouvenou, le directeur technique du Tour.
On va faire un bilan, bien sûr, après la première expérience, hein. Mais clairement, c'est quelque chose qui doit modifier cette dernière étape. Alors, on va voir à quel niveau ça va la modifier. Je pense que ça va être plus punchy et on verra bien le retour de cette première expérience avant de prendre une décision pour le futur. Mais que le Tour de France passe à proximité des grands monuments, bah, voilà, il est fait pour ça, le Tour de France.
Alors, niveau ambiance, on devrait avoir quelque chose d'assez sympathique, une ambiance assez folle. Des milliers de Parisiens sont attendus dans les points chauds de la capitale pour pousser les coureurs. Certains sont même déjà présents sur place ce matin. Et comme pour les Jeux Olympiques, la rue Le Pic sera entièrement barriérée. Plus de 3000 policiers et gendarmes vont sécuriser le parcours.
Merci beaucoup Nicolas, à tout à l'heure donc pour l'intégral tour à partir de 17h sur RMC. Et je répète, hein, si vous êtes actuellement rue Le Pic, que vous attendez les coureurs, vous avez le temps. C'est à partir de 18h30, on l'a dit, pour le premier passage. Donc n'hésitez pas à nous appeler 32 16, on attend de savoir comment ça se passe, si vous avez prévu le casse-croûte pour attendre et puis la glacière. Donc est-ce qu'il faut que ce passage par Montmartre soit systématique? Je pensais que ça ferait plus débat, cette question, pour être tout à fait honnête, parce que moi-même j'étais un peu tiraillé, je ne sais pas quoi en penser, donc je voulais votre avis. 32-16 pour nous rejoindre. Pour toi, Fred, c'est un nom franc et massif, faut pas
oui,
du
c'est,
tout
oui, c'est un nom franc et massif. Moi aussi, j'y réfléchis, hein, parce que c'est vrai que ça relance un petit peu l'intérêt de la course, entre guillemets. Ça fait une étape sympa
en tout cas,
pour
la
finir.
Dernière étape.
Oui, enfin, de la course, de cette course-là, pas du Tour de France, mais cette course-là. Et c'est vrai que pour nous, spectateurs, c'est sympa, mais j'ai peur de banaliser l'exceptionnel. C'est-à-dire que pour moi, passer à Montmartre, c'est exceptionnel. C'est une vue incroyable. C'est comme si on banalisait le Mont Ventoux pour moi. Alors, encore une fois, j'exagère peut-être un petit peu, mais c'est comme ça que je le ressens. Donc, me dire que on va tout le temps revoir Montmartre, etc., eh ben, je trouve que quand c'est si fantastique, si exceptionnel, ben, j'ai pas envie de le voir tout le temps, justement. J'ai envie de me dire, ça reste exceptionnel, c'est quelque chose d'incroyable. Mais je comprends j'imagine ce que tu vas dire, Simon, par rapport à ça. Mais c'est mon ressenti. C'est vraiment le fait de. Il y a une fin de course incroyable, c'est génial, c'est fantastique. Mais c'est pas à tous les coups.
Ouais, tu préférais la parade sur les Champs-Élysées où il se passait rien.
Ben, apparemment, les coureurs, en tous les cas, le préfèrent. Et c'est vrai que pour les spectateurs, l'intérêt est plus sympa quand il y a ça. Mais la parade est bien aussi.
Là, tu vas avoir l'arrivée sur les Champs-Élysées.
On a depuis de nombreuses années souligné que cette dernière étape, elle ne recèle aucun suspense et aucun intérêt sportif. Alors,
c'est une parade,
c'est une parade.
Mais c'est ce que les coureurs disent
eux-mêmes. Il y a le fait que, en effet, on n'a pas envie de prendre le risque de s'aborder tous les efforts faits, notamment par celui à qui la victoire est promise. Mais avant même que les Jeux, avant même que Paris obtienne les Jeux Olympiques, ça fait 20-30 ans qu'on rêvait d'utiliser ce dénivelé quand même de Montmartre et ce qui est une forme de patrimoine français quand même. On en parlait en début d'émission. Voilà, la planète entière voyage pour venir voir ce quartier de Montmartre.
Bah, il a dit récurrent, donc, quand même, Simon. Hein,
non, mais parce que, il y a l'effet JO, c'était il y a un an. Mais, on me rappelle, c'est quand même la première fois de l'histoire que ça va être le cas dans le Tour de France. Alors, il y a une différence de contexte parce qu'en effet, là, ça arrive après trois semaines d'efforts. C'est pas une course d'un jour. Et, je peux comprendre qu'il y ait une différence de perception dans la façon dont les coureurs accueillent voilà ce changement de parcours. Ce qui me fait dire que je ne souhaite pas que ce soit récurrent tous les ans, parce que tu as raison, ça pourrait banaliser quelque chose qui, pour le moment, à mon sens, reste exceptionnel. J'espère que ça va être exceptionnel encore aujourd'hui. Je pense que il y a en effet une unanimité chez les spectateurs qui sont enthousiastes, parce que ça va être une ambiance encore une fois extraordinaire. Tu transformes des rues de Paris en un col du Tourmalet ou de l'Alpe d'Huez, et ça, je trouve ça absolument remarquable. Je pense qu'il faut aussi se mettre à la place des coureurs. Et je me mets à la place des Milan, des Merlière, des Deli, des sprinteurs ces Champs-Élysées, c'est quand même la plus belle des récompenses pour des gabarits qui sont pas taillés pour pailler.
Pour ceux qui ont réussi à passer la haute montagne.
Exactement,
par
c'est quand même ta récompense. Tu t'es envoyé les Pyrénées, les Alpes, alors que ton morphotype fait que tu souffres nécessairement.
Tu récompenses les punchers un peu.
Tu récompenses les punchers, mais je veux dire les Champs-Élysées. C'est quand même le Graal, une victoire sur les Champs-Élysées, c'est le Graal pour un sprinter dans une carrière. Donc c'est pour ça que je pense que à l'avenir il faudra équilibrer les choses. Même si, on le rappelle, ça fait quand même un petit moment que, sans passer par Montmartre, les organisateurs essayent quand même de créer autre chose. Et parfois, on est passé par la vallée de la Chevreuse, on est passé par Meudon. Meudon, ça grimpe aussi. Je veux dire, on a tenté dans les années passées
d'essayer d'éviter cette arrivée coupée. En tout cas, c'est ce qui est dit, c'est que cette dernière étape, elle doit évoluer. Donc, si au-delà de Montmartre, il est travaillé depuis quelques années que cette dernière étape, elle doit avoir des profils selon les villes, selon les enjeux, en tout cas les villes qui se positionnent. Bah, donc on ne peut pas systématiser Montmartre sur la dernière étape, sinon ça va c'est contre-productif de ce qui a été proposé par le directeur du Tour de France, qui veut faire évoluer cette dernière étape. Et je suis un peu comme toi, Fred, c'est-à-dire que si on veut la rendre exceptionnelle,
indécise, cette dernière étape.
C'est banal d'arriver sur les champs.
Non, mais
on est bien d'accord, c'est banalisé d'arriver sur les champs.
Il peut se passer par la butte Montmartre, il peut se passer des choses, t'as les pavés,
Alors moi, je voulais juste vous demander. Il y a donc, on est dimanche, samedi, c'est vendredi où tous les commentateurs disaient que cette étape, elle était beaucoup trop dure. C'est celle de jeudi ou celle de vendredi?
J'imagine.
Col de Christophe. La
Lose. Oui, c'est ça.
Voilà, le col de la. Ou quand j'écoutais les comptes rendus de cette étape, on disait que c'était beaucoup trop dur de placer cette étape-là après 17 jours de course. Mais là, c'est extrêmement dur aussi pour les coureurs.
Ouais.
Donc. Après 21 jours de course, est-ce qu'on prend pas des risques? Est-ce que ce sont pas des risques inutiles? Et moi, je vais ajouter une petite chose qui...
À ce moment-là, Sarah, tu arrêtes le Tour de France au bout de la 20e étape et tu dis, bravo, vous rentrez chez vous, vous avez tous gagné.
Sarah, c'est
le Tour de France, c'est les forçats de la route. Si tu écoutes les coureurs, ils voudraient des étapes de 50 km, pas trop de col et du beau temps tout le temps. Donc, il faut pas les écouter, il faut casser les codes, et c'est ce que sont en train de faire les organisateurs du Tour de France depuis des années. Et je trouve que c'est une très bonne idée cette année d'aller à Montmartre.
Là, on est tout à fait d'accord.
Mais de ne pas systématiser le truc. Il faut une variété de choses. Et cette dernière étape qui ne servait à rien, avec ces coupes de champagne, ces petits
fours,
ça ne servait à rien. Je trouve que c'est une très bonne idée d'avoir fait Montmartre. Je pense qu'il faut attendre de voir comment ça va se passer cet après-midi, savoir si les coureurs vont avoir envie de faire la course ou non, s'ils vont escamoter Montmartre, savoir si le mauvais temps ne va pas jouer un rôle. On se rappelle que l'année dernière, il faisait un temps magnifique lors de la course olympique. Il y avait la moitié moins de concurrents. Et puis surtout, c'était comme une classique. C'était une course d'un jour. Là, ils arrivent au bout de 3 semaines. Voyons ce qui va se passer cet après-midi avant de changer les choses. Mais je trouve que c'est une très bonne idée de casser les codes.
Donc, tu ne fermes pas la porte au fait que
je vais te proposer autre chose. Moi, je pense qu'il faut complètement casser les codes de cette dernière étape. Pourquoi achever toujours le Tour de France à Paris? C'est le seul pays où le jacobinisme est aussi présent, alors que dans d'autres pays, en Italie par exemple, on finit à Rome de temps en temps, à Milan.
Il a raison. On va arriver à Marseille.
C'est toujours à Paris depuis 1975.
On a fini à Nice l'an dernier.
Pourquoi l'année prochaine? Pourquoi l'année prochaine?
Il faut systématiser l'arrivée à
Marseille en montant Notre-Dame-de-la-Garde. Pourquoi ne pas aller à Toulouse comme il y a eu cette étape il y a quelques jours. Pourquoi ne pas récompenser
les grandes villes de France ? Et pourquoi tu pourrais pas d'ailleurs ?
Pourquoi toujours à Paris ?
Là, je vais un peu plus loin, mais finir sur une étape de haute montagne où tu finis en haut d'un col.
Les filles vont finir à Châtel dans quelques jours, dans 8 jours.
À l'Alpe d'Huez l'année dernière.
Sur une étape de montagne, à l'Alpe d'Huez l'année dernière.
Tu gardes le suspense jusqu'au bout, hein.
Il faut sortir des chemins de traverse et voilà, trouver plutôt des chemins de traverse, sortir des sentiers battus. Et c'est ce que sont en train de réaliser les organisateurs du Tour de France. Mais moi, cette étape des Champs-Élysées habituelles, je n'en pouvais plus. Et là, je suis excité. Et toute la caravane du Tour de France est excitée à l'idée de voir cette étape.
Ouais, tu demandes à voir quand même,
peut-être,
Christophe.
Peut-être la montagne, peut-être Montmartre va-t-il accoucher d'une souris. Je demande à voir. Mais en tous les cas, il y a cette excitation qu'il n'y avait pas les autres années.
Oui, ben on peut aussi imaginer, souvenez-vous que l'arrivée en 1989, c'était un contre-la-montre, c'était sur les champs, mais c'était un contre-la-montre. Mm-hmm. On peut imaginer, et c'est resté absolument...
Ouais, mais regarde ce qui s'est passé l'année dernière, Simon, ça a pas marché.
Oui, mais ce que je veux dire, c'est que regarde, il y a ça fait 35 ans que on en parle comme d'une étape légendaire. Alors peut-être que ça peut aussi à l'avenir donner des idées aux organisateurs.
Toi, tu veux pas qu'on touche aux Champs-Élysées, Simon.
Avec 4 minutes 20 d'écart, tu faisais
bien sûr, ça n'aurait servi à rien. Bah, ça aurait été décidé avant que les écarts se creusent. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que on peut tout imaginer. Et non, là où je rejoins pas tout à fait Christophe, c'est que je sais pas, ça fait quand même Paris, je veux dire, le monde entier a envie de voir ça. On a envie, ces dernières années, on a reculé.
Simon, il y en a marre du conservatisme. Sortons un peu des choses habituelles.
Alors, Christophe Cessieux, qui te traite de conservateur, quoi.
Il est juste sur le cyclisme où il ne veut pas être conservateur. Hein, Christophe ?
Pardon ?
Tu as juste sur le cyclisme et le Tour de France où tu ne veux pas de conservatisme.
Voilà.
Bien sûr, tu me connais, je suis le plus réac de tous les mecs.
Exactement.
N'importe quoi.
Non, après, le Tour de France, c'est quand même quelque chose qui est mondial et à un moment dans le monde, je suis désolé Christophe, et là je vais rejoindre Simon et ça me
allons à Limoges enfin, Fred. Non, mais
il faut que ça parle au monde. On vend cette épreuve et cette magnifique compétition dans le monde entier. À un moment,
Et l'Italie, tu crois pas que Rome est le centre de l'Italie ?
Ouais, tu crois pas que le Tour de France est plus important que le Giro ?
Il est peut-être un peu plus important. Et tu crois que la France est plus importante que l'Italie alors
Mais aucun rapport. Je te parle pas de pays. Je te parle d'événements.
Arrêtez avec.
Tu sais que dans le monde entier, on parle de Paris. Et tu as raison.
Dans le monde entier, on parle de
Giro est beaucoup moins. Oui, mais le Giro est moins important que le Tour de France. Donc si t'as envie.
C'est la deuxième épreuve la plus importante derrière le Tour.
Ben donc c'est la deuxième. Je suis d'accord.
Arrêtons de nous gargariser.
Quand t'es deuxième, t'es obligé d'innover. Quand t'es premier, t'as pas besoin.
On a d'autres grandes villes en France qui sont magnifiques et je trouve que ce serait récompenser ces grandes villes-là et les habitants de ces grandes villes-là et bien de leur offrir la dernière étape du Tour de France. Mais je dis pas toutes les années, c'est une année à Paris et une année dans une autre grande ville.
Moi, je suis d'accord.
On va juste préciser qu'aujourd'hui la caravane ne va pas monter à Montmartre et on sait que la caravane
Et la moto de Maria d'ailleurs.
Et voilà. Ah ouais. Et ça fait partie du décorum du Tour de France. Hein. Les gens au bord des routes attendent autant les coureurs que, voire peut-être plus la caravane que les coureurs de temps en temps.
Les goodies, c'est beaucoup plus important, Sarah.
Non, mais au-delà des goodies, c'est un spectacle parce que c'est comme un carnaval en fait. C'est des chars.
Les gens viennent à moitié pour la caravane et à moitié pour les coureurs du Tour.
Donc à Montmartre, ce n'est pas possible logistiquement parlant. Donc il faut aussi savoir qu'ils vont voir les coureurs, mais ils ne verront pas. La magie Tour de France dans sa globalité. Voilà.
Bon, j'espère que Thierry Gouvenou nous écoute. Il a sans doute, de toute façon, déjà entendu Christophe Cessieux régulièrement. Donc voilà, il doit savoir ce que pense Christophe. Christophe et les amis, on va prendre Wari qui est au 32-16, qui nous attend, qui nous rejoint dans les grandes gueules. Bonjour Wari.
Bonjour les GG.
Salut Wari.
Bonjour.
Merci d'être avec nous pour ce débat. Est-ce que pour toi, ce passage par Montmartre doit être systématique désormais dans le Tour de France ?
Non, il ne doit pas être systématique. Moi, ce que je voulais dire, c'est que chaque année, je regarde le Tour de France et surtout la dernière étape. Et j'en avais un peu marre. Il démarre en région parisienne, il roule à 10 km/h, il traverse le national et ils arrivent sur les champs. Ça manquait de quelque chose. C'était sympa de les voir faire en photo, prendre une coupe de champagne. Mais la dernière étape, elle était assez fade, je trouvais, part le sprint final. Moi, ce que j'aimerais, comme ils le font cette année, c'est que on en profite avec cette dernière étape. On traverse les monuments de la région parisienne. on aille au château. Regarde, on démarre à.
On les traverse, ça veut dire tu veux rentrer carrément dans le Sacré-Cœur, etc.
Non, mais non, pas à l'intérieur des monuments, mais ça serait là, on passe de Mantes dans le 78. Pourquoi on fait pas un petit détour par le château de Versailles? Pourquoi on ne rentre pas par l'Arche de la Défense? Comme ça, comme c'est quand même l'événement, le troisième événement mondial le plus regardé. Pourquoi ne pas profiter de cet événement-là pour montrer les monuments français? Et enfin,
Versailles, le tour y passe quand même très régulièrement.
Ouais, on est déjà passé
ces
hein.
dernières années.
Oui.
Non, mais je parle de la dernière étape.
Pareil,
je
sais que le Tour de France carré du Louvre aussi. Hein.
Ouais. Non, non, je sais que le Tour de France fait un travail exceptionnel pour le patrimoine français. Ça, je le sais, je le regarde. On a des vues d'hélicoptères de toute la France, c'est magnifique. Mais la dernière étape, entre le départ à 13h et l'arrivée à 17h, pourquoi on n'en profiterait pas pour visiter toute la région parisienne, tous les monuments? Montmartre est une solution. C'est bien ce qu'ils ont fait cette année. Mais bon, est-ce que ça doit être Perrin? Je sais pas. Mieux vaut changer. Mais
d'accord.
Voilà.
Bon, c'est et pas pour que idée, ça soit systématique.
Au juger,
oui, vas-y.
Deuxième idée.
Vas-y,
ouais. Pourquoi l'étape féminine d'aujourd'hui qui passe en Bretagne? Pourquoi elle commencerait pas à 9h et elle passerait par le chemin des que les hommes prendront quelques heures après? On pourrait aussi en même temps médiatiser le Tour de France féminin.
En termes d'organisation, c'est compliqué hein, parce que c'est une énorme machine le Tour de France. Et puis c'est pas tout à fait les mêmes intérêts, c'est pas la même caravane, c'est pas les mêmes annonceurs. Donc ça, c'est un problème commercial et c'est un problème organisationnel. Et juste pour revenir sur le parcours d'aujourd'hui, le Tour passera devant le château de Versailles.
Il me semblait bien quand même.
Le tour passera devant le château de Versailles. Mais bon.
Et pas dedans. Hein.
Moi je propose qu'on.
Pas dedans.
Bah, moi j'aurais bien voulu.
Pas dans la galerie des glaces, pas dans la galerie des glaces.
Moi je veux qu'il passe dedans. Voilà. Bah, oui. Exactement, évidemment, ça serait super, franchement.
Ça serait super la pub pour le château.
Ah oui,
bah,
ça, mais qu'il passe dedans, à l'intérieur, etc. Ça serait formidable. Mais après, ça doit quand même poser des problèmes logistiques.
Le parquet risque d'être un peu abîmé.
Aussi, c'est vrai. merci Wari en tout cas d'être passé. Merci beaucoup. Et allez, tu seras, je sais pas si t'es à Paris, mais tu vas aller à Montmartre, Wari?
Non, là je suis en route. Je me suis arrêté sur une aire de repos. Je vais à Biscarrosse.
D'accord. Bah oui, bah tu vas en vacances.
Il faut que je me dépêche parce qu'il y a la finale France, Angleterre-Espagne.
Et Angleterre-Espagne, exactement, à 18h, il me semble, c'est la finale de l'Euro féminin et que l'on va, donc on va
nous,
parler.
Nous, on a lâché depuis un moment. Hein.
L'Euro féminin?
Ah, bah, depuis que la France est
éliminée. Moi, je suis toujours, et c'est vraiment une très belle affiche, hein, Espagne-Angleterre.
Oui,
elle a raison,
Wari,
c'est la plus belle affiche.
Mais ça aurait été un débat aujourd'hui.
De quoi?
Ben, est-ce que sans l'équipe de France, on s'intéresse encore?
Un débat caché,
J'avais vraiment envie d'entendre Fred sur ce débat, en plus. Vraiment. Très intéressant.
Et pourquoi pas?
Merci, Wari. Christophe, salut, avant de te remercier, est-ce que Pogacar, il la veut, cette étape-là? Est-ce qu'on va avoir une attaque, enfin, du maillot jaune, là? Ça fait quatre jours qu'il dort, là.
Ouais, il nous a laissé penser que peut-être cet après-midi, en fonction de la situation de course, il pourrait tenter sa chance. J'y crois moyen, ouais. Mais sait-on jamais. On rappelle que le dernier maillot jaune à avoir triomphé lors de la dernière étape, c'était en 1982, un certain Bernard Hinault. Et ça aurait de la gueule. Et on sait que Pogacar adore battre les records, donc sait-on jamais. Le voir triomphant cet après-midi, ce serait pas mal. Ça nous permettrait de nous remonter le moral parce que ces derniers temps,
il est déprimé. Complètement déprimé. Il faut que tu l'emmènes avec toi au Brésil. Hein.
Alors je sais pourquoi il est déprimé.
Ah pourquoi?
C'est pourquoi, parce que l'autre jour, on n'a pas voulu laisser sa fiancée Urska descendre avec lui de l'étape qui arrivait à la Plagne. Les organisateurs du tour n'ont pas voulu et depuis, il est très fâché.
Il est très fâché parce qu'on a refusé ça à sa copine. Ouais. Ah ben ça, c'est une bonne info. Merci Christophe. Non, mais c'est possible. Hein. Christophe, on te remercie. Bonne fin de tour à toi. Tu nous as régalé. Donc on en profite. Hein. Toute l'équipe des GG te remercie. On a hâte de retrouver dans les grandes gueules du sport, évidemment, à la rentrée. Profite bien aussi de tes vacances, bien méritées. Voilà.
Ben merci et on se retrouve tout à l'heure à 17h.
17h. Mais oui, bien sûr, on ne va pas rater ça. On n'en ratera pas une miette. Merci beaucoup. Dans un instant, on va revenir avec le dossier des GG sur la natation française, les championnats du monde qui se sont ouverts aujourd'hui à Singapour. Tous les résultats, c'est dans un instant. Et puis on se posera la question, est-ce que l'âge d'or de la natation française est derrière nous? 32-16 pour nous rejoindre sur RMC. À tout de suite.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules du sport. RMC, jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
François Pinet.
11h32, Sarah Pitkowski, Simon Dutin, Fred Weiss ce matin, en direct jusqu'à midi. Il reste une demi-heure à nous écouter. Merci à tous d'être avec nous depuis 9h. Et si vous n'étiez pas là au début, vous pouvez retrouver le podcast, vous le savez, sur l'appli RMC. Dans 15 minutes, ce sera le débat caché. Mais d'abord, c'est l'heure d'ouvrir le dossier des GG.
RMC, le dossier des GG.
Un dossier qui va nous permettre de prendre des nouvelles de nos nageurs français pour le début des championnats du monde. C'est aujourd'hui. D'ailleurs, n'oubliez pas ce rendez-vous sur RMC, 13h-15h, dès aujourd'hui et toute la semaine prochaine. Intégrale natation pour vivre toutes les finales sur place à Singapour. Grâce à Julien Richard qui est avec nous ce matin. Salut Julien.
Salut les GG, salut à toutes.
Salut Julien. Et à tes côtés, Sophie Camoun. Salut Sophie.
Salut les GG, bonjour tout le monde.
J'adore parce que quand on les accueille, on entend cette petite cette petite musique de piscine là. Vous entendez là?
Tant que tu sens pas le chlore, ça va.
Et peut-être qu'il y a bien de cause à effet, peut-être qu'ils sont à côté de la piscine.
C'est ça. Là j'ai l'impression
que voilà. Donc la vérité c'est vraie, impossible. C'est qu'ils sont pas devant leur écran.
Voilà, c'est ça. Ils sont en direct de Singapour et franchement, moi qui déteste la piscine, c'est pas un bruit que j'adore. Mais oui, mais j'aime pas aller dans la piscine.
T'aimes pas la piscine?
Mais j'aime pas mettre un bonnet en fait de bain, un slip de bain, je me trouve ridicule. Voilà, pour tout vous dire. Mais trouve-moi
le
quelqu'un.
Le plus dur, c'est pas de se mettre.
Trouve-moi quelqu'un qui n'est pas ridicule avec un bonnet de bain, à part Léon Marchand, bien sûr.
À part les athlètes de l'équipe de France, tous les nageurs professionnels et nageuses, ils sont pas ridicules en maillot de bain, je te confirme.
Mais dans le studio, là, on est tous ridicules.
Bah, ça va, et moi, j'y travaille quand même.
Bref.
On va essayer de changer de sujet.
Oui, voilà, vaut mieux avancer. Dans un instant, tu nous donneras les premiers résultats des séries, Julien. Il faudra attendre avant de voir Léon Marchand à l'œuvre, puisque son programme démarre plus tard. Et justement, la question que je vous pose, parce qu'on a Léon Marchand, mais est-ce que l'âge d'or de la natation française est derrière nous désormais? Oui ou non? Sarah Pitkowski.
Je vais dire oui, parce qu'on a déjà connu un pic historique. D'accord. Donc oui. Je vais être un peu sur le oui.
Fred Weiss.
Je vais être beaucoup plus concis, non.
Simon Dutin.
Oui.
Sophie Camoun.
Non.
Ah, on a deux noms de oui, ça c'est pas mal. Julien, tu seras l'arbitre, mais avant ça quand même, Julien, donne-nous les premiers résultats justement à noter ce matin chez nous.
Oui, parce que justement en attendant le Roi Léon, on a quand même Maxime Grousset qui a montré les muscles cette nuit, meilleur temps ex aequo du 50 mètres papillon sur les séries ce matin avec le Suisse Noé Ponty, 22 secondes 74 centièmes, il est à 4 centièmes seulement de son record de France qu'il a établi à Montpellier en juin dernier lors des championnats de France. Un chrono canon et surtout avec la manière, il fallait justement voir le ralenti de la caméra sur son visage à l'arrivée. Il s'est presque surpris lui-même, Maxime Grousset.
Je pensais pas faire ce temps en vrai. Non, franchement, c'est très cool. Je me sentis très bien. Je pense que je peux avoir encore plus d'aisance et de facilité. Donc c'est cool, très bon point pour ce matin. Ça donne très confiance. Ouais, non, franchement, ça donne confiance. C'est chouette.
Sophie, la performance de Maxime Grousset, c'est vraiment, ça donne beaucoup d'espoir pour lui.
Oui, l'entrée en matière est toujours difficile dans un championnat du monde. Et là, c'est vrai qu'il a très bien nagé. Il sait qu'il est en grande forme. Il a battu ses records personnels il y a 5 semaines au championnat de France. Il a fait une super saison après des Jeux Olympiques décevants, on peut le dire. Et là, il a envie de se relancer complètement. Il vise tout simplement d'être champion du monde sur le 50 mètres et sur le 100 mètres papillon.
Les autres résultats, donc, Julien, à noter de cette nuit?
Avec l'autre bonne nouvelle de la nuit, c'est la qualification du relais 4x100 féminin pour la finale. Elles ont réalisé le 5e temps ce matin. Beryl Gastaldello, la co-capitaine des Bleus, Marina Yel, Alban Cachot et Marie Wattel. Alors la marge est pas énorme pour les Françaises comparées aux autres nations qui vont peut-être faire rentrer des nageuses un peu plus fortes en finale ce soir. Alors que le relais bleu va rester le même, mais on peut rêver pourquoi pas d'une médaille. En tout cas, elles sont après les séries qu'à 3 dixièmes du podium, donc c'est pas non plus infaisable, mais ça va être quand même assez compliqué. Le reste de la nuit n'a pas été super. En revanche, c'est un peu rageant pour les garçons justement sur ce relais 4x100 qui passe pas le cut, sont éliminés 11e des séries, mais il y a pas mal de promesses malgré tout dans ce relais. On aura peut-être l'occasion d'en reparler dans l'intégrale natation notamment. Et puis sinon, élimination logique d'Anastasia Kirpichnikova sur 400 mètres nage libre. Ce qui est un peu plus inquiétant, c'est que le chrono est vraiment pas bon. Élimination également de David Aubry, toujours sur ce 400 mètres nage libre, et de Lilou récent cours sur 100 pattes.
Et puis alors, au-delà de Léon Marchand, dont on a beaucoup parlé notamment hier, qu'est-ce qu'on peut espérer pour ces championnats du monde? Quel objectif pour ces bleus, Julien?
Alors c'est vrai que si on doit parler de médailles, le tour d'horizon il va finalement être assez rapide. Sans Florent Manaudou, qui ne sait toujours pas s'il va continuer ou pas, ça prolonger un peu sa carrière jusqu'au championnat d'Europe l'été prochain. Ça va reposer essentiellement sur Léon Marchand, Maxime Grousset et dans une moindre mesure peut-être Anastasia Kirpichnikova. On sait que ça va être dur peut-être pour elle de réitérer cet exploit des Jeux où elle a pris l'argent sur le 1500 mètres, mais en termes de médailles individuelles, voilà où on pourrait les retrouver. Peut-être aussi un relais, le relais 4x100 mètres 4 nages des garçons qui avait pris la médaille de bronze aux Jeux de Paris. Ce sont les trois seuls nageurs présents dans le top 5 mondial hein, en arrivant à Singapour. Et ça, généralement, ça ment pas. Hein. C'est un sport de chrono et quand on n'est pas dans les 5 meilleurs mondiaux à la proche d'un championnat du monde, c'est difficile de créer l'exploit. Peut-être compter sur un Johan Ndoye-Brouard, par exemple, sur le 100 mètres d'eau. Mais voilà, c'est en tout cas la réalité de la natation française aujourd'hui qu'il faut peut-être nuancer. Rappeler qu'il y a 28 nageurs sélectionnés, alors que la fédération avait fixé les temps de qualification très difficiles, les plus difficiles jamais mis pour des championnats du monde, c'était tout simplement les mêmes que pour les Jeux. Le directeur technique national a changé, c'est aujourd'hui Denis Auguin, l'ancien mentor d'Alain Bernard, qui a remplacé Julien Issoulier, mais ce qui n'a pas changé c'est le discours justement autour de ce tableau des médailles, ce nombre de médailles. C'est pas vraiment la question, c'est pas vraiment ce qu'ils attendent. Denis Auguin:
ce qui va m'intéresser, c'est la progression de nos nageurs et la progression de l'équipe en général. L'idée, c'est de voir si nous on progresse et surtout si on recolle, même si on n'est pas très loin, mais on va essayer d'être ambitieux, de recoller aux 3-4 meilleures équipes du monde. Ça se fera pas en une édition, encore une fois, mais voilà, il faut qu'on affirme qu'on souhaite être la meilleure nation européenne. C'est déjà à long terme, hein. Enfin, sur l'Olympiade, c'est déjà un bel objectif.
Voilà, donc en gros, on va compter sur les tauliers pour les médailles et puis on va observer ce qui se passe chez les jeunes pousses. Notamment, il y a 7 jeunes nageurs qui découvrent les mondiaux et on les a notamment vus sur le relais 4x100 masculin, je vous en ai parlé. Ils sont éliminés, mais ils sont très très jeunes et très prometteurs.
Merci beaucoup Julien. Alors tu restes avec nous, hein. Tu interviens quand tu veux pour participer à ce débat. La question, je vous la rappelle, est-ce que l'âge d'or de la natation française est derrière nous? Pour toi Simon, c'est oui.
Oui, parce que sans vouloir remettre en question ni les accomplissements d'un Léon Marchand, ni le travail de la Fédération française ces dernières années, il faut voir d'où on redescend.
La densité n'est pas la même.
Où sommes-nous montés et d'où on redescend. Moi, quand j'étais jeune, enfant, je me souviens que on n'était pas invité dans les grandes compétitions. Je me souviens qu'il y avait des Stéphane Caron, il y a eu Franck Esposito, il y avait Karim Pelinski. Bon, ça a commencé à frémir. Moi, je me souviens avec Mara Sinanou et puis Laure Manaudou, évidemment, au début des années 2000. Et puis avec ce que je considère l'âge d'or, c'est à partir de 2008, Alain Bernard, champion olympique du 100 mètres de nage libre. Ouais. Jamais j'aurais imaginé jusque-là qu'un Français pourrait être champion olympique du 100 mètres de nage libre, qui était l'épreuve reine. Moi, la natation, j'en suis tombé amoureux devant les écrans avec le duel Popov-Gary Hall en 96 à Atlanta. Je veux dire, les fauves, tu vois, dans le bassin. Et puis, ça s'est poursuivi avec Londres, tu vois, être champion olympique du 4x100 mètres de nage libre, battre les Américains, ça paraissait insensé. Et à cette époque-là, il y avait quand même une densité au très haut, au sommet même. Il n'y avait pas plus haut. La France était quasiment la meilleure nation de la natation mondiale. Donc, je veux dire, c'est difficile, voire impossible, d'égaler ce qui a été accompli entre, allez, grosso modo, 2004 et 2016. Voilà, pas besoin de rappeler, Florent Manaudou, pareil. Je veux dire, je pense que je parle en effet sous le contrôle de Julien et Sophie, peut-être un petit creux générationnel du côté de la natation féminine. Sur certaines distances, des absences au niveau du relais. Donc, alors, est-ce que peut-être qu'un Léon Marchand va nous faire une carrière à la Michael Phelps? Et évidemment, ce sera légendaire. Mais je veux dire, Michael Phelps, la carrière qu'il a accomplie, c'était au milieu d'une nation qui reste, à mon sens, la plus grande nation et qui gagnait aussi dans d'autres. Il y a d'autres Américains, Américaines qui gagnaient. Les Australiens, c'est pareil. Donc, je pense que si on parle d'âge d'or, je pense qu'on ne peut pas réduire aux seules performances de Léon Marchand l'ensemble, tu vois, du niveau, expertiser le niveau de la natation française juste à la lumière des performances, si exceptionnelles soient-elles, de Léon Marchand.
Mais justement, moi, je suis à deux doigts de penser à peu près exactement l'inverse. En fait, pour moi, c'est une portée philosophique presque, à savoir, est-ce que tu préfères la densité, c'est-à-dire avoir plein de nageurs de très 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 bon niveau ou avoir un nageur exceptionnel, avoir peut-être un des meilleurs nageurs du monde. Et dans ce cas-là, est-ce que tu considères qu'avoir un Léon Marchand, et je n'oublie pas Grousset évidemment, mais je le mets pas dans la catégorie de Marchand évidemment, mais je me pose vraiment la question. Tu vois, en fait, je me faisais le parallèle, Simon, avec le tennis. Je me dis, on a eu une génération, on parle souvent du tennis, où les générations étaient bonnes. Alors, je suis pas en train de comparer les résultats du tennis et de la natation, mais on parlait d'une génération qui était très bonne. Mais est-ce qu'on n'aurait pas pris, avec les mousquetaires, est-ce qu'on n'aurait pas pris, finalement, éliminer cette génération pour un mec capable de gagner les grands chelems? Et je te dis, c'est une vraie portée philosophique sur ça. Est-ce que l'âge d'or, c'est quand tu gagnes tout, avec plein? Ou est-ce que l'âge d'or, c'est quand t'as le meilleur du monde?
Regarde, en natation, quand Van den Hogenband, le Hollandais, était le roi du sprint, on disait pas que les Hollandais étaient, que les Pays-Bas étaient la plus grande nation de la natation.
On a moins fait de débat sur les Hollandais.
Tchad Leclos, le Sud-Africain, ça a pas fait de l'Afrique du Sud la référence mondiale. Christina Egerzegi, une légende de la natation hongroise, n'a pas fait de la Hongrie la plus grande nation de l'époque de la natation. Donc, moi, la façon dont j'entends la question, dont j'entends ce débat, pour dire qu'on est une nation dominante, je pense qu'il faut
la même vision de l'âge d'or,
que les victoires soient un petit peu plus diluées,
La question peut se poser à savoir, soit tu veux le plus grand, peut-être un des plus grands de tous les temps, et je me répète, est-ce qu'en tennis, on n'aurait pas aimé quelqu'un qui nous gagne du grand chelem plutôt que ça? Et en ce moment, on parle du tennis espagnol, t'as Alcaraz, hein.
Sarah,
à peu près.
Sarah, et puis après, évidemment, on sera Sophie.
Alors j'allais vous exposer mes arguments, mais en fait, il y a une question, c'est l'âge d'or. En fait, l'âge d'or, c'est de se dire, c'est est-ce qu'on a un éclairage sur une discipline et est-ce que cette discipline inspire? Et en fait,
non, ça c'est toi, c'est ta définition de l'âge d'or.
Oui, c'est ma définition, ouais. Mais en écoutant finalement Simon et Fred, je me dis. Ok, l'âge d'or avec la densité, tu l'as dit, Simon, on était plutôt dans les années entre les 2008 et 2016. Je pense qu'à Rio, ça a commencé. Et voilà, il y a une petite descente parce qu'avant, on les comptait. Bernard, on le disait, Alain Bernard, Amaury Le Vau, Yannick Agnel, Florent Manodou, Camille Muffat, Laure Madonou, Frédéric Bousquet. Il y avait une densité. Et cette densité, elle inspirait, elle nous faisait nous intéresser. Mais j'ai envie de te dire, finalement, je suis aussi intéressée à la natation à cette époque-là, mais aussi aujourd'hui, même si je n'ai pas cette densité, il y a un tel fer de lance de la natation française, un tel ovni, un tel extraterrestre, enfin, je ne sais pas quel mot on peut lui donner, quel adjectif on peut donner à Léon Marchand, mais que finalement, j'ai répondu non, mais il me donne envie de suivre la natation, même à lui tout seul au final. Donc, et je pense qu'il inspire. On sait qu'après les Jeux, Sophie, on va pas, je parle sous ton contrôle, je pense qu'il y a eu un afflux de gamins et de gamines, surtout à Toulouse, mais dans d'autres piscines, qui ont voulu se mettre à la natation. Donc finalement, ils sont aussi aspirationnels, qu'ils soient nombreux ou qu'on en ait un seul.
Sophie, pour toi, oui, il y a beaucoup de choses à dire, mais pour toi...
Je vais contenter tout le monde, puisque Simon lui disait que l'âge d'or c'était plutôt la densité, Fred était plutôt sur on a le meilleur du monde, Sarah sur l'inspiration. Juste pour faire une sorte de petite historique, à Athènes et à Pékin, on n'avait qu'une seule médaille d'or, hein. On n'en avait qu'une. À Londres, on a eu 7 médailles, dont 4 en or, et ensuite Rio et Tokyo, 0 médaille d'or. Donc l'âge d'or, pour moi, ça a vraiment été le point culminant, ça a été Londres.
Ouais.
7 médailles, dont 4 en or.
Enfin, il y a eu Barcelone en 2013, où il y a eu je ne sais pas combien de médailles.
Non, mais ça, on était sur des... Oui, mais ça, c'était, si tu veux, Londres, Barcelone, c'est la même époque, c'est juste après. Okay. Donc, et pour moi, à Paris, c'est certain, on a eu effectivement la même chose, 7 médailles, dont 4 en or, mais... Une seule personne, effectivement, Léon, qui a eu toutes les médailles d'or. Donc, effectivement, beaucoup moins d'individualité capable de gagner des médailles. Vous l'avez dit, à Londres, on avait Manodou, Agnel, Muffat, Lacour, Bousquet, Gillot, etc. Cette année, en ce moment, on en a beaucoup moins. On en a peut-être que 3 ou 4 qui sont capables d'aller chercher des médailles aux Jeux Olympiques. Il y a Léon, il ne faut pas oublier que Maxime Grousset est passé à côté de ces Jeux Olympiques, mais a déjà été champion du monde. Qu'Anastasia Kirpichnikova a été médaillée aux Jeux l'année dernière. On a Johan Endelbroer qui a été champion d'Europe. Voilà, on en a qui sont capables d'être sur les podiums, mais moins qu'aux Jeux Olympiques de Londres. Par contre, moi, je trouve que le signe très positif, c'est pas, alors vous regardez les médailles et c'est normal,
oui.
Mais ce qui est important aussi, c'est de regarder les finales. Parce que les finales, quand on est en finale aux Jeux Olympiques ou aux Championnats du Monde, 3 ou 4 ans avant les prochains Jeux Olympiques, ça veut dire qu'on est capable d'être médaillé aux Jeux Olympiques suivants. Léon Marchand, la première fois que vous en avez entendu parler, il avait été 6e aux Jeux Olympiques de Tokyo. L'année suivante, il était champion du monde. Donc voilà, quand on est en finale d'un grand championnat, ça veut dire qu'on a déjà le potentiel. Et l'année dernière, on a fait 15 finales sur 28 courses, soit plus de la moitié. Ce qu'on n'avait pas du tout fait à Londres. On a été finaliste chez des garçons dans toutes les courses sauf 3. On a été finaliste dans tous les relais sauf le 4x100 messieurs parce qu'on avait mis des remplaçants le premier jour. Et à Londres, on n'avait pas ça. Donc on a quand même une densité aujourd'hui. Alors certes, ça ne se traduit pas pour l'instant en nombre de médailles, mais on a quand même une densité et on a surtout des jeunes qui sont bons. Julien l'a dit tout à l'heure, on a un relais 4x100 libre qui ce matin ne s'est pas qualifié pour 90 centièmes. Je crois. Ils sont à 4. Non, même pas. Non, ils sont à 90 centièmes de la 3e place. Ouais. Et on a décidé de ne pas mettre Maxime Grousset ce matin parce que c'était un choix de la DTN par rapport au fait qu'il a beaucoup de courses. Mais si on enlève le moins bon nageur et qu'on met Maxime à la place, on gagne 2 secondes et on jouait le podium. Avec des nageurs qui, derrière Maxime, ont une moyenne d'âge de 20 ans. Donc voilà, on a quand même des choses qui sont très positives dans cette natation française et qui laissent penser que cette prochaine Olympiade, on peut se régaler.
Ah bah voilà, on a de l'espoir grâce à toi Sophie. Voilà, merci beaucoup.
Et tout le monde est content en plus autour de la table.
Et tout le monde est content.
Tout le monde a gagné, comme bravo, à l'école des fans.
Bravo Sophie, ça c'est bien. En tout cas, on va suivre évidemment les performances françaises de très près sur RMC. Je vous le rappelle, 13h-15h pour le premier intégral natation. Mais tous les jours à partir donc d'aujourd'hui et toute la semaine prochaine, 13h-15h, on retrouvera Julien. On trouvera Sophie pour les finales à Singapour de ces mondiaux et on l'espère, pas mal de belles performances françaises, mais on suivra évidemment les grandes stars de la natation qui sont présentes également à Singapour. Merci beaucoup à tous les deux et à tout à l'heure sur RMC. Dans un instant, les grandes gueules reviennent avec le débat caché. Vous savez rien, les amis.
Il est caché,
donc vous savez rien. Et donc on en reparle dans un instant, la surprise, tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport. RMC, jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
François Pinet.
Simon Dutin, Fred Weiss, Sarah Pitkowski ce matin, qui vous accompagne en direct depuis 9h. Vous le savez, les grandes gueules du sport qui ne s'arrêtent jamais pendant les vacances. Et vous le savez, on a toujours nos petits rendez-vous habituels, comme le débat caché. C'est parti.
Ne leur faites pas confiance, ils vous tendent un piège. Ce sont des bandits de grand chemin.
Et le guet-apens du jour, les amis, eh bien c'est ça.
Écoute, bien arrivé en Martinique, comme vous pouvez le voir, après 12 jours de transatlantique. C'était fou, c'était vraiment une expérience de fou. Et ça me donne envie de découvrir d'autres choses, encore plus de découvrir d'autres milieux et de le faire découvrir aux gens en fait. Ça me fait trop kiffer de pouvoir tout filmer et de montrer à la communauté qu'est-ce que c'est que ce milieu-là, c'est quoi la discipline, c'est comment ça marche et d'essayer de partager tout ça avec la commune.
Inoxtag, c'est lui que vous avez entendu, créateur de contenu, streamer, youtubeur ultra suivi. Sa chaîne YouTube compte plus de 9 millions d'abonnés et il s'est fait connaître en diffusant des vidéos de performances sportives. Souvent dans l'extrême, il a gravi l'Everest, il en a fait un reportage vu par 44 millions de personnes. Au milieu d'autres vidéos, il doit survivre seul sur une île déserte pendant une semaine. Il a fait récemment un duel aux échecs avec Wembanyama et donc une traversée de l'océan Atlantique. En 11 jours, il est arrivé dimanche dernier en Martinique devant des milliers de personnes venues l'acclamer. L'objectif, c'est de faire un documentaire autour de cette traversée réalisée avec le navigateur Guirec Soudé. Alors, est-ce que les influenceurs, créateurs de contenu, font du bien ou du mal à l'image de ces sports? Bien ou mal? Fred Weiss.
Vas-y Fred.
Du bien.
Sarah Pitkowski.
Mais non, c'est pas possible.
Non, du mal. Évidemment.
Ça ne te ressemblait pas, Sarah.
Ça peut pas faire de mal.
Donc plutôt du bien. Simon Dutin.
Du mal. Enfin, ouais.
Alors, juste, Patrice Franceschi, marin et écrivain, interrogé par le Figaro cette semaine après ce qu'a fait Inoxtag, dit « Cette mise en scène de soi exagérée et narcissique est l'emblème de notre société du selfie et de son individualisation. À mes yeux, c'est une profanation de la mer. On est très loin des grands navigateurs comme Tabarly. Ce jeune homme, en scénarisant sa traversée, falsifie le réel. » Bon, là, on est dans la...
Qu'est-ce qu'elle dit ça
Patrice Franceschi.
Je ne l'aurais pas dit aussi bien, parce que monsieur parle extrêmement bien, ouais. Mais je suis absolument d'accord avec lui. C'est le problème de la génération, c'est que on explique des choses de façon banale, on se met en scène déjà parce que le principe c'est pas de mettre en scène le sport qu'on met en avant, c'est de se mettre en scène soi. Voilà. Et ensuite moi ce qui me dérange c'est le fait de montrer que ça semble facile, que il y a pas l'effort, cette culture de l'effort, cette culture de.
Alors attends, tu crois qu'il a pas fait l'effort?
Non, mais c'est la souffrance quand même.
Oui, mais ces gens sont des gens qui font ces montées, ces gens qui traversent l'océan. C'est des gens exceptionnels. Il faut montrer la difficulté. Il a montré en suivant soi-même, en étant narcissique, en n'ayant que la volonté de se développer soi-même. Moi, ça me dérange. Après, encore une fois, je ne connais pas le travail de Inox Tag.
Oui.
Et je pense que c'est générationnel. Et je pense que ça met effectivement un coup de projecteur sur ça.
C'est pas de cette génération.
Mais je trouve ça un peu triste quand même de se mettre en avant plus que le sport qu'on veut défendre.
Tu vois, moi, je vais finir cette saison en étant d'accord avec toi, finalement, Fred. L'amour l'emporte.
L'amour l'emporte toujours.
Voilà, toujours.
Non, mais on compare.
Juste pour compléter, parce que Fred a dit beaucoup de choses que je partage, j'ai beaucoup de mal, moi, avec les influenceurs et les influenceuses qui, je pense, quels que soient les événements, les actions qu'ils mettent en lumière, en fait, tu demandais si ça fait du bien ou du mal. En fait, les influenceurs, les influenceuses, c'est à eux, en priorité, qu'ils cherchent à faire du bien à leurs finances, à leur renommée, à leur exposition. À une époque, la génération Instagram, en fait, ce qui est important, c'est pas de faire, c'est d'avoir fait.
C'est une autre façon de raconter le sport.
Sur Instagram, c'est pas
de raconter l'histoire aussi, peut-être.
Regarde les gens, avec tout, leur téléphone.
C'est pas ce que tu aimes, mais c'est une autre façon de faire.
Depuis, je te dis, l'avènement des réseaux sociaux, les gens, ils ont leur téléphone à la main et ils ont, au lieu de regarder ce qu'ils ont sous les yeux, ils le regardent à travers le prisme de leur téléphone parce que c'est plus important de montrer qu'on l'a vu que de le voir. C'est plus important de montrer qu'on y est allé que d'y aller.
Phagocytez pas le débat, vous êtes d'accord, Fred et Simon, donc on va écouter Sarah, qui est.
je peux y aller, du coup.
Je crois, Simon, qu'il faut pas se tromper sur des influenceurs où finalement on l'est tous un petit peu, où les gens ont besoin de raconter leur vie et de montrer là où ils étaient absolument. Parce que les créateurs de contenu, on va parler d'Inox Tag, ce sont des véritables métiers. On est à la limite du journalisme. Ils font des récits, mais au lieu de raconter des récits de quelque chose qu'ils ont vu ou qu'ils ont suivi, ils font des récits de ce qu'ils ont vécu. Donc via ce prisme-là, on est sous une forme de journalisme mais inclusive, c'est-à-dire qu'ils sont plus aspirationnels. Aujourd'hui, pourquoi on est plus en demande, ou en tout cas les entreprises sont plus en demande d'essayer d'avoir des reportages via des créateurs de contenu que via des récits ou des présentations sur des médias traditionnels. Parce qu'on cherche
l'aspirationnel.
C'est pas parce qu'Inox Tag a traversé l'Atlantique que c'est facile. Il y a plein de gens qui traversent l'Atlantique sur leur bateau et qui soient tout seuls ou plusieurs et pour lesquels ils font pas un récit de ça. Enfin, je veux dire, ils font pas une course, il a juste montré qu'il est allé découvrir un autre univers qu'est la voile, avec un skipper qui lui est expérimenté, et il a raconté ce récit et il a montré des choses de l'intérieur. Alors, que vous appréciez pas, c'est une chose, mais on va pas dévaloriser le fait que ce jeune homme, à travers un contenu et à travers des médias qui sont aujourd'hui la source de consommation la plus importante dans le monde, eh bien, il montre des choses différentes. Voilà.
Bravo, Sarah.
Qu'on aime ou qu'on n'aime pas Inoxtag.
Encore une fois, la masse n'est pas un argument, je suis désolé.
Oui, mais d'accord. Mais bon, en tout cas.
Mais elle est écoutable et elle est entendable.
Voilà, c'est. Ouais. Et c'est de la qualité en plus. Il y a des belles images. Vraiment.
Mais j'irai voir.
Déjà pour le débat,
je connais pas.
Oui, c'est vrai que c'était un débat caché en même temps. Vous pouvez pas savoir, vous pouvez pas préparer pour le coup. Merci beaucoup à tous les trois.
Moyennement caché celui-là.
Vous êtes quand même fantastique. Voilà, je voulais vous le dire. Sarah, merci beaucoup. Merci Fred. On se retrouvera prochainement tout l'été, évidemment, dans les grandes gueules du sport. Simon, c'était ta dernière dans les grandes gueules du sport cet été. On se retrouvera bien sûr prochainement.
Si tu me laisses 10 secondes, je voudrais faire une petite bise à Maxime Onveau, notre chef du week-end.
Il a raison, on l'embrasse.
Il nous quitte et je lui souhaite bonne route. Il a toujours été super avec moi,
même si à RMC. Quand même la rédac d'une main de fer, hein, Maxime Onveau.
Oui, il va manquer c'est ça à cette rédac et j'espère que je le recroiserai ici ou ailleurs.
On l'embrasse, Maxime, qui nous écoute sans doute. Merci beaucoup à toi aussi, j'en profite. Très bonne journée à tous les trois, donc je le disais, les DG du sport qui reviennent samedi prochain.